France Culture.
Salle des archives. Mathieu Garrigou-Lagrange.
France Culture, salle des archives, des émissions drôles. Épisode 2, bande de potes.
On se retrouve à 11h pour d'autres informations et tout de suite, l'oreille en coin.
Eh oui, l'oreille en coin de Jean Garretto et Pierre Codou.
Eh bien, on va commencer dans l'intellectualité, si vous voulez bien.
Dans l'intellectualité, on pourra jamais.
Vous savez que nos petites couillonnades de dimanche dernier sur les noms de famille et les prénoms...
Ça a très bien marché.
Oui, ça a suscité un courrier assez abondant et venant des personnes les plus inattendues. D'ailleurs, si j'en crois d'ailleurs le premier que je tiens dans la main, qui est Monsieur Jean-José Roubaud, inspecteur départemental de la jeunesse et des sports.
Je vois que les fonctionnaires ne perdent pas leur temps.
Voilà, et qui nous écrit qu'il a eu un authentique camarade de classe qui s'appelait Jean Neymar, voilà.
Oui, c'est comme
il dit que quelqu'un qui s'appellerait Covert ne devrait pas appeler son fils Harry.
L'oreille en coin du 28 octobre 1979. Un numéro parmi des dizaines, des centaines, des milliers d'autres, puisque l'émission a débuté, sous le nom de TSF 68, plus d'une décennie plus tôt, et qu'elle va perdurer jusqu'en 1990. 22 ans d'invention, près de 10 000 heures de programme, des milliers de blagues, certaines drôles et d'autres moins, on ne peut pas être bon tous les jours. En tous les cas, une émission qui a créé un standard en France et en a inspiré beaucoup d'autres. Je me souviens d'une fois où on écoutait l'oreille en coin dans la R14 parentale, ça devait être en 1989. J'étais un peu petit pour saisir totalement les sketchs, à vrai dire, je ne comprenais déjà pas le titre bizarre de cette émission. Elle allait s'arrêter l'année suivante, et son ton avait déjà quelque chose de suranné, en tous les cas pour un représentant d'une génération qui n'avait déjà plus les oreilles en coin, et je ne sais toujours pas ce que ça veut dire. Je me souviens que des chansonniers interprétaient ce jour-là une chanson parodique du genre « On a emmêlé les bobines, bine, bine ». C'était pour accompagner un sketch tout à fait boulevardier, où il était question de bandes magnétiques soi-disant emmêlées dans la régie du studio. À l'arrière de la R14, ma sœur et moi, nous avions plutôt envie qu'il s'arrête de s'emmêler les bobines pour pouvoir écouter à la place une cassette de Depeche Mode, groupe anglais qui, à l'époque, était le summum de la modernité. Dans la R14, les générations n'étaient donc pas totalement en phase au niveau de l'autoradio, et je me souviens m'être dit que l'oreille en coin, c'était vraiment de la radio de papa. Je me l'étais dit au moment même où mon père avait tourné le bouton pour éteindre la radio et glisser une cassette de Depeche Mode dans le lecteur, ce qui démentait sur le champ la justesse de mon analyse. Les parents sont vraiment des créatures surprenantes. Toujours est-il que pendant longtemps, je n'avais pas gardé de souvenirs particulièrement émus de l'oreille en coin. J'en étais resté là jusqu'à ce que, il y a peu de temps, je me retrouve dans la salle des archives face à un immense rayonnage, celui où sont entreposées les bandes de l'oreille en coin, ces fameuses bobines, bines, bines, qui n'avaient pas l'air emmêlées du tout. J'en ai sorti une ou deux de leur boîte en fer, d'où émanait une odeur un peu acide, pour écouter ce que cela donnait. Et là, je dois dire que j'ai été impressionné. Impressionné par l'inventivité, la créativité, la liberté de ton qu'on trouvait dans cette émission. Ou plutôt, faudrait-il dire, dans ce marathon radiophonique hebdomadaire, puisque l'oreille en coin, c'était rien moins que 11 heures de programme par semaine, certaines enregistrées et d'autres en direct. Mais globalement, il se passait vraiment quelque chose de spécial dans cette émission inventée par Jean Garretto et Pierre Codou. Et pour les invités, s'y rendre était un moment spécial aussi, c'était un passage obligé dans lequel on risquait gros. Exemple avec Nicolas Sarkozy le 23 avril 1989.
Alors, écoutez, oui, voilà. Eh bien, j'ai entendu une dame le dire, à l'instant, oui, oui. Il est jeune.
Il fait jeune.
Alors, dire une chose, c'est qu'en politique, il y a des vrais faux jeunes, des faux vrais jeunes. Oui. Vous êtes un vrai de vrai, et vous affichez sur votre carte d'identité 34 ans, mais vous poussez la provocation jusqu'à en paraître carrément la moitié. En ce moment, ça doit faire des envieux, non?
Vous savez, j'ai choisi de faire la politique parce que j'y crois, mais il y a une raison, et spécialement en ce moment, qui me font me réjouir et qui m'incline à continuer dans ce métier, c'est que c'est le seul métier de France où à 50 ans, vous êtes jeune. À 40 ans, on est quasiment dans l'adolescence, et à 34 ans, ce qui est mon âge, on est quasiment à l'état de projet. Hein ? Lorsqu'on
Donc
voit
vous,
ce qui se passe...
l'avenir est devant vous.
Oui, l'avenir est devant moi.
Alors, vous mettre en politique, j'ai vu ça, c'est Achille Peretti, c'est Charles Pasqua, c'est Jacques Chirac. Ça faisait un peu trois hommes et un couffin, tout ça, hein.
Oui. Thomas Baumgartner, vous êtes journaliste, producteur de podcasts et d'émissions de radio, fondateur du studio Wave.audio. Vous avez été rédacteur en chef de Radio Nova et producteur à France Culture et vous travaillez aussi pour le podcast L'Heure du Monde. On vous doit enfin le livre L'Oreille en coin, une radio dans la radio chez Nouveau Monde Éditions. Ça veut dire quoi ce titre de L'Oreille en coin? C'est le sourire en coin dans l'oreille?
Jean Garetto, donc, co-fondateur, réalisateur de ces milliers d'heures de programmes, comme vous disiez, avec Pierre Caudou, donc c'était un duo, m'avait raconté qu'ils avaient passé un temps fou à chercher L'Oreille en coin. Donc c'est le résultat, c'est ça, de l'entrechoquement de plusieurs titres, plusieurs noms, plusieurs mots sur une série de pages. Et c'était bien Le Sourire en coin, le point de départ.
Est-ce que ce titre-là dit quelque chose de l'émission en elle-même?
Alors, je ne sais pas si ça dit quelque chose, mais pour moi, c'est Le Sourire en coin a quelque chose à voir avec une forme d'ironie et de distance. Et c'est ce qu'ils ont quand même professé pendant toutes ces années, jusqu'en 90. Pour moi, il y a un ton qui a été inventé. C'est un endroit qui était plus qu'une émission. Hein, quand j'ai mis en sous-titre « Une radio dans la radio », c'est ce qu'ils te disaient aussi dans l'équipe. Ils ont été, cette radio dans la radio a été une charnière entre une radio peut-être un peu empesée, sans doute un peu plus surveillée, et une radio plus libre, une radio publique plus libre et un ton plus libre. Et ils ont tenté des choses, ils ont dévoilé des talents qui avaient cette ironie, qui était aussi sans doute aussi quelque chose, une distance, qui était aussi peut-être celle d'une génération, et qui a un peu contaminé, selon moi, un ton plus général, en particulier de France Inter. Et en ça, ils ont été vraiment la résonance de l'époque.
Quelle était la place de l'humour spécifiquement dans ces émissions qui constituaient L'Oreille en coin?
Effectivement, c'est plusieurs émissions, donc c'était pendant de nombreuses années, c'était à la fois le samedi matin, le samedi après-midi et le dimanche matin. L'humour, enfin la radio drôle, humoristique, était celle du dimanche matin. C'est a tout de suite été une radio du matin, du réveil, du moment où on a le temps d'écouter aussi, où on peut se détendre de la semaine. Et effectivement, l'humour, au sens strict, j'allais dire, ça se passait le dimanche matin, avec des chansonniers, des humoristes, des imitateurs.
Cet humour, peut-être moins blessant, plus universel, est-ce que c'était pensé comme un humour de service public, pouvant s'adresser précisément largement à tous les Français, ou est-ce qu'il n'y avait pas cette idée?
J'ai discuté beaucoup, quand j'ai fait mon livre, et puis encore un petit peu avant, et puis un peu après, avec Jean Garetto. Je pense que c'est quelqu'un qui, avant tout, est un homme de radio, et donc qui pense en termes de programme. Il avait évidemment une proximité avec tous les gens qui ont fait L'Oreille en coin, mais il avait aussi une forme de distance, ça restait le chef. Et je pense que, pour lui, il y avait l'idée d'en donner un peu pour tous les goûts. C'est de faire une radio de qualité, de service public, de le penser comme ça. Mais de le penser aussi comme un rythme, c'est-à-dire que c'est quand même une mini-grille de programme, hein. C'est trois demi-journées, du samedi matin, samedi après-midi et dimanche matin, c'est pensé comme une petite grille de programme. Et donc c'est plutôt l'idée de se dire, le dimanche matin, qu'est-ce qu'on peut faire? On va, encore une fois, c'est un moment de détente, c'est un moment de disponibilité, c'est un moment où on peut oublier les soucis de la semaine. Et j'en avais discuté aussi avec quelqu'un qui s'appelle Guy Sonneau, qui travaillait dans L'Oreille en coin en tant que technicien, et je me rappelle une phrase qui m'avait dit, et je me suis dit, c'est la définition d'une radio de service public. À partir de 1984, le dimanche matin étant public, donc les gens viennent voir l'émission se faire. Et il y a des invités politiques, etc. Et je me rappelle très bien, le dimanche, c'était parfait, les gens venaient, se détendaient, s'installaient, ils passaient un bon moment, ils riaient ensemble, et ensuite ils allaient manger une pizza dans le quartier. Et ça me paraissait quelque chose de tout à fait simple, de tout à fait vrai, et c'est une manière aussi de se projeter au-delà de ce qu'on fabrique comme radio, d'avoir vraiment une réflexion du « qu'est-ce que c'est que le service public un dimanche matin ?»
Caudou et Garetto, les créateurs de L'Oreille en coin, avaient travaillé avant cela à une émission intitulée « Le grand jeu des villes de France », une sorte d'interville avant l'heure. Ils étaient venus faire la promo de cette émission à l'antenne le 1er juin 1962.
Sur la chaîne parisienne, la chaîne France 2, à 20h37, le grand jeu des villes de France, qui, je crois, parvient à la finale. Les deux producteurs, Jean Garetto et Pierre Caudou, vont d'ailleurs nous dire quelles sont les villes opposées dans cette dernière épreuve.
Eh bien, ce sont toujours les villes qui ont participé aux quatre dernières, aux trois dernières émissions, c'est-à-dire Toulouse, Marseille, Bordeaux et Nancy, c'est-à-dire une forte proportion de méridionaux.
C'est donc en travaillant ensemble sur cette émission que Caudou et Garetto avaient appris à se connaître vraiment, à force de parcourir la France en voiture sur les longs rubans de départementales zébrés par l'ombre des platanes. C'est durant ces trajets que leur était venue l'idée de proposer leur propre émission. Bien sûr, c'était plus facile à dire qu'à faire. Ils savaient bien que les projets d'émission ne manquaient pas, que les dossiers s'entassaient dans le tiroir de la directrice des programmes de Paris Inter, Agathe Mella. Ils avaient donc un plan très audacieux pour ne pas se retrouver dans ce tiroir maudit, remettre un projet bien trop grand pour qu'ils puissent jamais y entrer. Et je veux dire par là un projet physiquement trop grand, rédigé sur un rouleau d'un mètre de large, impossible à plier, il ne rentrait même pas dans la poubelle. On ne sait pas si c'est la raison pour laquelle Agathe Mella leur a confié leur première émission, mais cela lui a au moins prouvé qu'ils avaient un certain sens de la provocation. Garetto et Caudou étaient donc devenus producteurs à l'ORTF, qui deviendrait bientôt Radio France. Ils avaient aussi été chargés de rendre vivante la maison de la radio en y organisant une sorte de festival. Dans chacun des studios, ils avaient créé une atmosphère spécifique. Accordéon ici, chant lyrique là-bas, musique de chambre un peu plus loin. Le tout était retransmis en direct sur France Inter, comme s'il s'agissait d'un multiplex de foot. L'antenne allait fureter d'un studio à un autre. Avec tout cela, ils avaient fait leurs preuves, et quelques années plus tard, voilà qu'on leur proposait cette tranche immense qui allait devenir celle de l'Oreille en Coin. Thomas Baumgartner, pourquoi proposer aux deux mêmes producteurs d'occuper comme ça 11 heures d'antenne sur la grille des programmes de France Inter?
Le point de départ, c'était qu'on reprochait un peu dans les années 67-68 à France Inter en particulier de s'assoupir par rapport au dynamisme des radios périphériques d'Europe 1 et RTL en particulier, et de finalement s'être à la fois aligné sur un format musique et parole, mais d'être moins riche que les concurrentes. Et il y a un directeur éphémère des programmes de France Inter, un directeur de France Inter qui s'appelle Guy Béguet, qui ensuite deviendra député, pas longtemps après. Mais le temps où il est là, il propose à Garetto et Caudou sur un temps un peu densifié comme ça du week-end de trois demi-journées, de montrer ce qu'on peut faire, grosso modo. Et puis ils étaient deux, ce qui était pas mal, parce que ils savaient se renvoyer là, ils se connaissaient évidemment, mais se renvoyer la balle et être créatifs. D'ailleurs, j'ai pas réussi à savoir en discutant avec les uns et les autres en faisant mon livre, qui était le créatif et qui était l'homme de l'ordre, parce qu'il fallait, dans un duo, on peut imaginer que c'est comme ça que ça se dispatche, et manifestement, ils étaient un peu tous les deux, et de l'ordre et créatif.
Alors comment ça fonctionnait ce couple professionnel, Pierre Caudou, Jean Garetto, qui crée l'Oreille en Coin et quelques années plus tard vont inventer aussi FIP, et Jean Garetto sera également directeur des programmes à un moment donné de France Inter, donc une influence quand même énorme sur ces années-là à Radio France.
Pierre Caudou est décédé au tout début des années 80, donc je ne l'ai pas rencontré. Mais j'ai rencontré Jean Garetto, et Garetto m'avait dit on était absolument complémentaires, Caudou et moi, parce que il a des creux où j'ai des bosses. Je me rappelle de cette expression. Et je lui avais demandé d'ailleurs, est-ce que vous étiez jamais fâché? Il m'a dit, c'est arrivé une fois, on s'est fâché.
C'est pas beaucoup, une fois.
Une fois, non, en quelque chose comme 25 ans de travail en commun. Mais il s'en rappelait très bien. Et
c'était pour un retard.
C'était pour un retard.
Très grave.
Peut-être un nouveau retard supplémentaire. Et voilà, donc Garetto a dit, je vais amener un bouquet de violettes, je crois. Et puis on s'est réconciliés. Donc je crois que c'est l'exemple vraiment d'une complémentarité absolue, professionnelle, d'un regard évidemment, le même regard sur ce que la radio peut faire et sur ce que la radio publique doit faire. Le goût aussi de ne pas être au micro. Ils étaient producteurs-réalisateurs, ce qui est dans le jargon de Radio France, c'est une chose devenue, n'existe plus je crois d'ailleurs, et était déjà pas extrêmement courante, c'est-à-dire qu'ils avaient la responsabilité de l'émission, mais ils n'étaient pas au micro. Donc ils choisissaient les gens qui étaient au micro, et ça je crois qu'ils se retrouvaient tous les deux dans le goût d'aller chercher les talents. Et l'Oreille en Coin a été ça, c'est un endroit qui a été une école de radio pour beaucoup de gens. Un Denis Chessoux par exemple a été de l'école L'Oreille en Coin.
Mais aussi Paul Ajac, Chris, Marie-Hélène Monchicourt, Daniel Mermet, tous ces gens-là sont passés, ont été formés par L'Oreille en Coin, à tel point qu'on a l'impression que le France Inter des les années 90 et début 2000, ce sont les gens qui sont passés, qui ont été formés par Kodou et Garetto.
Ils ont appris la radio à une génération qui elle-même, à son tour, a transmis. Donc, ils sont un chaînon extrêmement important de l'histoire de la radio. Ils ont été aussi disponibles au talent des autres.
Donc, il y a un côté artisan et un côté compagnon aussi, où on se forme d'une génération à l'autre.
Absolument. On apprend les règles aussi de la radio. Les gens qui arrivaient là étaient souvent d'ailleurs des apprentis comédiens, venaient parfois de l'écrit, mais étaient des gens qui amenaient leur talent à la radio. Et Garetto et Kodou faisaient en sorte que les règles de la radio leur soient transmises et qu'ils les apprennent.
Parmi les séquences de L'Oreille en coin, l'une n'était pas forcément des plus heureuses vues d'aujourd'hui, même si, comme toujours, il ne faut pas regarder le passé avec les yeux du présent. François Jouffa et Simon Monceau avaient en effet eu l'idée d'organiser une sorte de procès de jeunes filles célibataires pour savoir comment il était possible qu'elles soient encore seules alors qu'elles étaient jolies.
J-J-M-S Jeune, jolie, mais seule.
Je donne la parole à l'accusation et je la prends. Nous sommes tous des assassins, tous les hommes sont des salauds, voilà bien un refrain nouveau et original. Je ne m'abaisserai pas à vous répondre que toutes les femmes sont des... ni même, ce qui serait beaucoup plus poli pourtant, des... Non, j'ai horreur des racismes sous toutes ses formes, et prétendre ce que vous osez prétendre, cher maître, c'est également du racisme. Ouais. Qui sont ces hommes passés en revue et que vous attaquez? Ces hommes que vous avez délibérément choisis. Oui, Daniel, vous qui vous sentez brimé par une société phallocratique, vous qui vous sentez humilié, vous qui avez peur de devenir objet, femme objet même, vous savez bien qu'aujourd'hui comme hier et comme demain peut-être, c'est la femme qui choisit l'homme et non le contraire malgré les apparences. Vous n'aimez pas être commandé, vous avez peur d'être traité en inférieur. Et qui rencontrez-vous? Qui choisissez-vous? Point d'interrogation. Des Corses. Attendez, ne sortez pas tout de suite vos vendettas à cran d'arène, ni même vos fusils de chasse. Je n'ai encore insulté personne. Les Méditerranéens sont ce qu'ils sont. L'image qu'ils désirent donner d'eux. Des gens où la place de la femme est à la cuisine et non pas autour de la table. Vous dépensez des fortunes en billets d'avion pour faire le trajet Ajaccio-Paris pendant une année pour, tiens, justement, rencontrer un Corse. Je peux me permettre une petite question, Daniel?
Oui, bien sûr.
Vous avez pris un abonnement pour...
Même pas, j'y ai même pas pensé.
Non, parce que vous m'avez dit que cette aventure avait duré un an. Je pensais que c'était le temps d'un forfait sur Paris-Ajaccio.
Malheureusement, non.
Thomas Baumgartner, que vous inspire cet extrait?
Évidemment, comme vous disiez, on peut pas écouter avec les oreilles d'aujourd'hui sans se dire qu'il y a du sexisme dans l'air et très clairement exprimé. Ce qui est paradoxal, enfin pas paradoxal d'ailleurs, ce qui est complémentaire, en tout cas faut le dire en parlant de ça, c'est que L'Oreille en coin a été une radio aussi beaucoup faite par les femmes. Je me rappelle d'une chanson, non d'un sketch que Chris jouait avec un musicien qui s'appelait Caratini, qui s'appelait Néné le Fallo, Néné le Fallocrate, qui était sur une histoire de couple, voilà.
Donc ça passait éventuellement dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il pouvait y avoir du féminisme et du masculinisme, entre guillemets.
Je pense qu'il y avait l'air du temps, c'est-à-dire que ce qu'on vient d'entendre est passé sans que ça crée trop de vagues sur les ondes nationales, parce que c'est comme ça
c'était
qu'on pouvait
la norme
parler,
aussi.
C'était une forme de norme, et on est quand même dans les années MLF aussi, et ça passait aussi.
Mmh. Donc une agora, finalement.
Une agora, en tout cas, on pouvait entendre ces deux choses-là.
L'Oreille en coin dimanche matin avec Maurice Orgue. Jacques Maillot.
On peut qualifier L'Oreille en coin d'émission de radio en bande. Je ne parle pas là d'une émission faite avec des bobines, binobines, c'est-à-dire des bandes magnétiques, même si c'était pourtant bien le cas. Je parle d'une émission qui donne l'impression que c'est une bande de copains qui se retrouvent à l'antenne. On peut mettre dans cette catégorie à la fois les grosses têtes sur RTL, les différentes émissions de Charline Van Honecker sur France Inter, ou encore la bande originale sur cette même chaîne dont le titre même fait référence à la bande d'amis.
Française, français, belge, belge, mon président, mon chien, monsieur l'avocat.
On peut aussi mettre dans cette catégorie une émission qui a sans doute été influencée par L'Oreille en coin, le célèbre tribunal des flagrants délires, qui a existé durant deux saisons entre 1980 et 1983 sur Inter. Extrait avec l'un des piliers du tribunal, Pierre Desproges.
S'il est vrai, dis-je, que le suicide est la seule différence entre l'homme et la bête, on peut affirmer également que le suicide est la seule différence entre l'homme et le chrétien. En effet, la religion chrétienne, dont la discipline est quasiment laxiste en ce qui concerne la longueur de la soutane, dont l'opportunité du port est laissée au libre choix de chacun, alors qu'il est interdit par l'islam, le port, pas la soutane. La religion chrétienne, disais-je avant de n'en plus finir entre deux virgules, la religion chrétienne est résolument hostile au suicide. Un chrétien qui se suicide, c'est comme un oranger sur le sol irlandais ou une fourmi de 18 mètres avec un chapeau sur la tête. Ça n'existe pas. On ne verra jamais un chrétien se suicider, ou alors c'est qu'il est très malheureux et qu'il a envie de mourir. Les causes de suicide sont multiples, je ne les dirai pas toutes, vous vous jetteriez par la fenêtre avant que j'aie fini. Citons en vrac, la baisse du dollar, la trahison de l'être aimé, la mort d'un enfant sympathique bien sûr, l'incurabilité d'une longue et cruelle maladie, ou l'incurabilité d'une courte maladie rigolote, à la rigueur.
Dans le livre « L'Empire du Rire » dirigé par Mathieu Letourneux et Alain Vaillant, le chercheur en littérature Jean-Didier Wagner a parlé de la commensalité comique, autrement dit le fait de rire ensemble. C'est le rire des cours de récréation, des cafés, de toutes les sociabilités joyeuses. Ces émissions commentent l'actualité comme on le ferait à la machine à café, mais avec des vrais humoristes, pas avec vos collègues. Elles sont aussi héritières des cabarets, des revues et des cafés-spectacles. Sur France Inter, la casse de la fin de matinée est dévolue depuis longtemps à ce type d'humour. On se souvient par exemple de Rien à cirer de Laurent Ruquier.
Rien à cirer, tout est nickel, tout va splendide chez moi, et tes yeux bleus couleur
de... Pour vous rappeler le ton de cette émission, nous en avons sélectionné un passage parmi d'autres, celui avec Jean d'Ormesson.
Et de connaître en vérité le bonheur dans mon nom.
Jean d'Ormesson, si je donne votre nom tel qu'il figure au Wouzou, ça va prendre du temps, mais je vais le faire. Jean-Bruno Vladimir François de Paul Lefebvre d'Ormesson. Heureusement que vous n'habitez pas un HLM, il n'y aurait pas de place sur la sonnette. Hein. Jean-Bruno Vladimir François Paul Lefebvre d'Ormesson.
Je peux tout vous expliquer, vous savez.
Vous devriez aller aux enterrements dont rendent compte le Figaro, on aurait toujours l'impression qu'il y aurait du monde. Alors, d'où ils viennent tous ces noms?
Eh bien,
Vous les avez rachetés, bon, très bien. Non pas que vous n'écriviez pas bien, monsieur d'Ormesson, mais quand je lis vos éditos dans le Figaro, magazine, je me dis quel grand écrivain. Et quand je lis vos bouquins, je pense quel bon journaliste. C'est votre drame, ça, hein?
Oui, vous avez tout à fait raison, c'est tout à fait vrai.
Ça vous embête, hein, d'être à la fois écrivain et journaliste. Mais alors, pourquoi vous n'arrêtez pas d'être journaliste?
Vous voulez que je vous dise?
Oui, pour l'argent.
Oh, bah, vous savez, il y avait eu une enquête...
Ne contournez pas les questions, ne contournez pas. Bon. Je réponds franc et net, c'est pour le pognon, voilà.
Il y avait eu une enquête des...
Allez-y, répondez, monsieur Lormeson.
Quelquefois, on écrit parce que... Pourquoi vous dites des conneries, vous, par exemple, hein? Pourquoi?
Pour le pognon.
Quelquefois aussi... On...
Mais moi, l'avantage par rapport à vous, c'est que ça fait rire.
Thomas Baumgartner, ces émissions d'humour en bande, sur quoi est-ce qu'elles fonctionnent? Pourquoi est-ce qu'elles font rire?
Ce que je crois, c'est que quand on fabrique une émission de radio... que ce soit dans une petite équipe ou une grosse équipe, c'est que une bonne partie de ce qui passe par le micro et dans les ondes et dans comment c'est reçu par les gens qui nous écoutent, une bonne partie de ce qui passe, c'est comment c'est fabriqué, dans quelle humeur, dans quelle ambiance, et qu'une équipe qui s'entend bien entre elles peut faire une meilleure émission qu'une équipe qui s'entend moins bien, sans parler de fâcherie, hein, même avec le même contenu. Donc, je pense que quand on veut faire de l'humour et qu'on arrive à rassembler une équipe, et si par bonheur cette équipe s'entend bien, ce qui veut dire aussi que l'émission peut durer longtemps, on fait d'autant plus rire. Quand on entend Laurent Ruquier, juste un mot, c'est que quand il a démarré Rien à cirer de mémoire en 91, c'était un an après la fin de L'Oreille en coin, du dimanche matin, puisqu'il avait repris ce créneau du dimanche matin. Et il avait, il le dit hein, dans ses livres, quand il raconte ses histoires de radio, il avait repris le rythme de L'Oreille en coin au début. Il avait cherché à ne pas créer trop de ruptures.
Peut-être aussi que ces émissions de bande, ce sont des émissions anti-solitude, dans le sens où on a le sentiment de retrouver des amis.
Alors, on a l'impression de retrouver des amis, c'est très juste. Des émissions de ce type-là sont des émissions de refrain. C'est-à-dire que on crée des repères, on crée des rituels, on crée des habitudes dans l'écoute. Ce qui fait que quand on est familier de ces émissions-là, on n'est pas perdu. Et à l'intérieur de ces repères-là, on crée évidemment des variations, des nouveautés. Et ça, c'est cet équilibre-là de grammaire radiophonique qui fonctionne bien, en particulier pour les émissions d'humour. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de dispositif de radio. Créer un dispositif de radio, ça veut dire créer une règle du jeu. Une règle du jeu dont l'auditeur va être complice. Et quand on est complice d'une règle du jeu, en fait, on joue avec les gens qui sont autour de la table.
Ces émissions de bande sont d'autant plus réussies que l'invité a de la répartie. Pour mettre toutes les chances de son côté, la tentation est donc grande d'inviter, je vous le donne en mille, un humoriste. Et pourquoi pas Coluche, par exemple. En tous les cas, le 20 mai 1981, juste après l'élection présidentielle où il ne s'était finalement pas présenté, malgré ses 10% dans les sondages, il est évidemment la personne à faire venir au tribunal des flagrants délires. L'équipe de l'émission lui a préalablement fait répondre à un questionnaire de Proust.
À la question « Avez-vous un idéal de bonheur ?», vous avez répondu « Je ne sais pas si idéal et bonheur, ça va ensemble. La réponse est plus difficile à formuler que la question. »
Oui, ce que je voulais dire à propos de cette phrase toute faite qu'on a qu'à mettre au mur avec un marteau,
oui,
pour s'en souvenir, ce que je voulais dire, c'est que le questionnaire au téléphone, en une demi-heure, tu vois, répondre à des questions, la vie, la mort, la coiffure, comme ça, des grands thèmes. Si tu veux, on peut le faire, tu vois, mais on n'en a rien à foutre. Alors, en général, on le fait n'importe comment, tu vois.
Bah, les questions sont celles d'un certain monsieur qui s'appelait Proust.
Mais oui, mais il est mort. Hein.
Bah oui, bien sûr, je sais bien.
On est obligé de s'y faire, maintenant.
Bah oui.
Les cimetières ne sont pas pleins de gens irremplaçables. Les mecs qui sont morts, c'est tant pis. Hein. Puis d'autant, ils vont pas nous emmerder, ils ont pas besoin de vivre de ça. Donc nous, on a qu'à bosser pendant ce temps-là, tu vois.
Bosser, je croyais que vous vouliez vous retirer sur une île dans le...
Oui, mais de là à plus gagner d'argent, il y a quand même un problème.
Ah oui. D'ailleurs, la question qui auriez-vous aimé être, vous avez dit Paul Lederman à cause de l'argent.
Ben évidemment.
Vous trouvez que votre impresario gagne plus d'argent que vous?
C'est pas moi qui trouve. C'est les impôts.
À la question de fait militaire que vous admirez le plus, vous avez répondu j'ai beaucoup aimé tout ce qui était retraite.
Oui, des conflits. La fuite toujours.
Oui, ça va.
La retraite de Russie, la retraite... voilà. Ça, j'adore. C'est la seule manière dont je comprends la chose militaire, si vous voulez, c'est dans la retraite. C'est quand les mecs ont compris qu'on les a baisés là, tu vois, et qu'ils en ont plein ce qu'il faut pas dire, comme on avait prévenu au début, et... Alors qu'il n'y a pas de raison de pas en parler, puisque la majorité des gens, si tu veux, bon, en ont.
Non, pas la majorité, il y a quand même aussi des femmes.
Les femmes, à ce sujet, je voudrais te dire, elles ont un truc aussi, hein.
Non.
Je te jure.
Thomas Baumgartner, un commentaire sur cette archive.
Sur la modernité de Coluche, il est en contre-pied. C'est-à-dire qu'il y a évidemment la manière de parler, mais dans la manière de répondre, il est légèrement en contre-pied par rapport à ce qu'on pourrait attendre dans un sens ou dans l'autre. Et c'est pour ça qu'il est très fort au micro. Mais c'était déjà quelqu'un qui n'était pas que de radio. Enfin, il a beaucoup fait de choses à la radio, mais il avait une popularité de scène et de télévision, même s'il a été interdit plus ou moins officiellement de télévision pendant un temps. Et puis on entend la voix de Claude Villers, qui était un grand inventeur de radio et de bande aussi, et qui lui refusait de faire la même émission plus de 2 ans ou 3 ans de suite.
D'ailleurs, ça n'a duré que 2 ans, en effet.
Ça n'a duré que 2 ans.
Le tribunal.
Ils avaient refait, je crois, une émission un peu plus tard qui s'appelait Bienvenue au Paradis sur le même dispositif. Et lui, le dispositif du tribunal, il s'en était inspiré de sa culture de radio aussi, de jeunes auditeurs. C'est toujours des choses qui se transforment et qui se mettent au goût du jour.
La radio d'humour traditionnelle est donc issue du monde du spectacle. Aujourd'hui, les podcasts privilégient plutôt la parole de l'intime et le dialogue en face à face, même s'il existe aussi des podcasts de bande. Sur France Culture, nous avons également nos bandes d'amis, ceux qui officient chez François Angelier, par exemple, dans son émission Mauvais Genre. Mais le programme de bande le plus emblématique de la chaîne, c'était Les Papous dans la tête, une émission qui ne ressemblait à aucune autre. On vous dit pourquoi dans le prochain épisode.
Des papous dans ta tête,
des papous dans ma tête,
des papous dans ma tête.
C'était des émissions drôles, une série de Mathieu Garrigou-Lagrange réalisée par Delphine Lemaire, attachée de production Lily Corner et Anne-Vanessa Prévost, prise de son Grégory Wallon, mixage Manuel Couturier.